On vient de l'entendre dans le journal, plus de 5000 hectares sont partis en fumée ces trois derniers jours dans le Var, le Vaucluse et en Corse, et ce n'est pas fini. Rien d'inhabituel bien sûr à cette époque de l'année, si ce n'est que le contexte est un peu différent, car depuis plusieurs mois déjà, les pompiers professionnels et volontaires en mal de reconnaissance dénoncent une dégradation de leurs conditions de travail. De plus en plus sollicités pourtant face aux violences du quotidien, ils constatent une diminution des effectifs et des moyens, un vrai décalage entre les réalités du terrain et les grands discours. Alors que les feux de forêt font rage dans le sud, le feu social couve chez les pompiers, comme le titrait hier matin l'Humanité. C'est le sujet de ce téléphone sonne. Vos témoignages, vos questions au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux ou par mail sur franceinter.fr.
Yves Decaen, le téléphone sonne.
En studio avec nous ce soir, le colonel Éric Faure, président de la Fédération des sapeurs-pompiers de France. Bonsoir.
Bonsoir.
Au téléphone, Romain Pudal, sociologue, lui-même pompier volontaire, auteur, entre autres, du livre intitulé « Retour de flamme », publié aux éditions La Découverte en 2016. Et bonsoir à vous, Romain Pudal, vous êtes là ?
Oui, je suis là, bonsoir.
Et avec nous également Thomas Kurt, chercheur à l'IRSTEA, l'Institut de Recherche en Sciences et Technologies de l'Environnement et de l'Agriculture, spécialiste des feux de forêt. Il est avec nous en duplex des studios de France Bleu Provence à Aix. Bonsoir Thomas Kurt.
Bonsoir Yves Decaen.
Alors juste un mot en préambule, Thomas Kurt, y a-t-il plus de feux de forêt qu'avant ? C'est un petit peu l'impression qu'on pourrait avoir ce soir, mais est-ce vraiment la réalité ?
Ouais, la réalité est un petit peu plus complexe. En réalité, il y a une tendance à la diminution du nombre d'incendies chaque année et globalement la diminution de la surface brûlée totale, notamment depuis la mise en place d'une nouvelle politique, une nouvelle stratégie de lutte contre les incendies dans les années 92-94. Ça, c'est lié au fait qu'on a amélioré tout le système de prévention et puis de lutte contre les incendies. Par contre, ce qui augmente, c'est plutôt ce qu'on a cette année. Ce qu'on a eu l'an dernier, ce sont de grands incendies dans des conditions météorologiques assez exceptionnelles et des incendies qui posent vraiment de gros problèmes pour les pompiers, pour la lutte.
Alors, on va voir pourquoi certainement au cours de cette émission, à travers notamment les questions des auditeurs et pour commencer, celle de Dominique qui nous appelle de Toulouse. Bonsoir Dominique.
Oui, bonsoir à vous, bonsoir à vos invités. Alors moi, je voulais aborder le sujet de la prévention, parce que, par exemple, le feu de lundi dans le Luberon aurait été provoqué, d'après vos flashs d'infos, par un mégot de cigarette. D'accord ? Bon, déjà, faut être un peu stupide pour jeter son mégot de cigarette par la fenêtre de la voiture. Hein. Je fais du VTT, je vois souvent aussi, alors des gens qui doivent abandonner ça, des tessons de bouteilles, vous voyez ? Donc, un tesson de bouteille, il fait chaud, etc. Donc, ça fait effet loupe, hein, d'accord ? Donc, propice à un feu de forêt. Et moi, je me disais tout simplement, bon, il va effectivement déjà y avoir des choses mises en place pour la prévention du public, n'est-ce pas ? Mais je me disais, par exemple, fin juin, juste avant les vacances scolaires là d'été, l'année scolaire est terminée, hein, les programmes sont finis. Pourquoi ne pas prendre une demi-journée à l'école avec donc les élèves et un des deux parents pour expliquer que on jette pas un mégot de cigarette par la voiture, on laisse pas traîner ses bouteilles dans la forêt, etc. quoi.
Alors ça fait partie de l'instruction civique, j'imagine. En tout cas,
ce serait même pas la peine que ce soit un sapeur-pompier qui aille expliquer. Vous voyez, le prof peut très bien le faire. Hein, il dit on fait pas ça. Voilà, point. C'est tout. Moi, je sais pas, ce sont des choses que j'ai appris quand j'étais gamin, hein, soit dit en passant. Hein, on jetait pas le verre de. J'avais des éducateurs qui fumaient, j'étais jamais vu jeter un mégot et je passais des vacances en Corse. Hein. Donc voilà. Donc je sais pas, ça me semble être bon. Ça me semble être une idée. Il doit y avoir certainement d'autres choses mises en place pour la prévention.
Alors, excellente remarque, Dominique. Rappelons que 90% des feux, d'ailleurs, sont provoqués par l'activité humaine. Hein. Thomas Kurt, c'est bien le cas. Et pourquoi, effectivement, ne pas procéder à une plus importante sensibilisation du public, à l'école, par exemple, mais pas seulement ?
Je pense que les collègues pompiers qui sont là pourraient répondre. La prévention, elle est quand même nettement renforcée depuis quelques années. Par exemple, l'information sur les périodes à risque. Hein, Météo France émet des bulletins d'alerte, calcule un indice forêt météo tous les jours pour indiquer le niveau de danger. La communication là-dessus est quand même s'améliore, hein, clairement. En ce moment, par exemple, on sait qu'on est en période très sévère ou exceptionnelle et que par exemple, l'accès aux massifs forestiers est interdit dans la plupart des départements. Ce qui est important à rappeler, c'est que la prévention, c'est certainement le moyen le plus efficace et le moins coûteux de diminuer le risque incendie.
Éric Faure, je rappelle que vous êtes le président de la Fédération des sapeurs-pompiers de France. La prévention, évidemment, vous y travaillez au quotidien.
Alors, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, effectivement, y travaille au quotidien. C'est un axe très important de notre action. Je vous rappelle qu'en 2016, nous avons obtenu la grande cause nationale autour du projet « Adoptons les comportements qui sauvent ». Et malheureusement, je vais contredire ce qui vient d'être dit, la prévention est un axe mineur des politiques publiques en France et en particulier dans le domaine de la lutte contre les incendies. Au-delà des feux de forêt, il n'y a qu'à voir les difficultés qu'on a eues pour imposer quasiment le détecteur de fumée dans les habitations. Revenons aux feux de forêt. On n'en parle finalement que quand ça a déjà brûlé. C'est aujourd'hui que la forêt est en feu, qu'on invoque ou qu'on passe des messages de prévention. Non, je pense qu'il faut être beaucoup plus proactif. Il faut être proactif à l'école où nous insistons pour que des messages soient suivis, pour que le programme scolaire, c'est prévu en primaire, intègre de vrais messages de prévention. Nous insistons pour que ça aille au-delà du primaire, donc des travaux sont en cours. Heureusement, notre fédération a été associée aux travaux de l'éducation nationale pour renforcer ces messages. Et puis surtout, ce sont des messages grand public, avec parfois les quelques messages passés qui sont pas adaptés. On dit par exemple, ne jetez pas votre mégot par la fenêtre de la voiture, mettez-le dans le cendrier de la voiture, sauf que les voitures modernes n'ont plus de cendrier. Donc il va falloir faire évoluer nos messages. Il y a le comportement des citoyens, il y a le comportement des propriétaires avec le débroussaillage qui doit être fait autour des maisons, puis il y a le comportement en cas de sinistre qui doit être adapté. Je le rappelle, le feu est à proximité. Limitez vos sorties pour ne pas encombrer les routes. Si le feu arrive à proximité de la maison, restez dans la maison, fermez les volets, protégez-vous et n'évacuez la maison qu'à la demande des services de secours ou de police.
Voilà, des conseils qu'on répète aussi à volonté sur toutes les radios. Chantal de Lamotte Saint-Héret nous demande par mail quelles sont les peines justement dans le cas d'un mégot de cigarette qui provoquerait un feu. Quelles sont les peines encourues?
Alors là, c'est une question piège, parce que j'ai pas
amené mon
code pénal, mais effectivement, c'est une infraction qui peut être qualifiée, si en plus il y a de la malveillance, ça devient un délit, donc ça relève de peines assez longues, assez longues, et surtout des amendes. Il faut savoir que l'intervenant précédent évoquait la notion de forêt fermée, interdite au public. Ne pas respecter cette interdiction est passible d'amende.
Et quand on dit que 90% des feux sont provoqués par l'homme, ce sont bien on parle bien d'accidents, hein, pas forcément de crimes.
Sur ces 90%, on estime que 40% sont de la malveillance et le reste des accidents. Il y a quand même une part de malveillance dans une partie importante de ces feux.
Retour au standard avec Agnès. Bonsoir Agnès.
Allô ?
Oui, bonsoir. D'où nous appelez-vous ?
J'appelle de Marseille.
Nous vous écoutons.
Bonsoir à tous, merci de m'accueillir. Je voudrais d'abord exprimer ma profonde admiration pour les pompiers, qui sont des gens extraordinaires, de compétences, de dévouement, de gentillesse, ce que j'ai pu constater chaque fois que j'ai eu affaire à eux dans des conditions un peu problématiques. Et donc je voudrais leur rendre hommage avant tout. Ensuite, j'ai une question, une proposition à faire, mais bon, c'est peut-être pas trop la saison compte tenu de la façon dont ils sont sollicités actuellement par les feux de forêt, en particulier dans nos régions.
C'est pas grave, allez-y.
Mais je voudrais savoir s'il serait possible d'organiser, non pas simplement de la prévention, mais des stages d'information et de formation pour de futurs pompiers bénévoles. Parce que, bon, je sais qu'il y a un problème de recrutement au niveau
des... Oui, on va en parler, oui.
Et de plus, ça me paraît une formation extraordinaire du citoyen.
Vous voulez dire des formations au premier secours, par exemple, mais ça existe.
Formation au premier secours.
Par la Croix-Rouge, notamment.
Je veux dire, multiplier... Par exemple, moi, je fréquente un centre équestre où les pompiers sont appelés à intervenir pour des entorses, pour des petits accidents, une fois pour apporter de l'eau parce que les abreuvoirs étaient gelés, enfin des choses comme ça. Mais ils pourraient peut-être organiser des stages de formation des jeunes qui seraient susceptibles de provoquer des vocations
Merci.
De pompiers bénévoles.
Merci Agnès. Éric Faure.
Écoutez, déjà, il faut éduquer la jeunesse. Il y a quelques semaines, dans cette même émission, j'étais avec l'urgentiste Patrick Peloux, parce que tous les deux, nous avons, à la demande du gouvernement, rédigé un rapport pour généraliser les gestes qui sauvent à l'ensemble de la population. Donc nous avons rédigé un certain nombre de propositions. C'était malheureusement quelques semaines avant le changement de gouvernement. Mais nous allons remettre l'ouvrage sur le métier pour relancer ces éléments auprès du nouveau gouvernement dès la rentrée prochaine. C'est essentiel. Un citoyen éduqué aux gestes de premier secours, en même temps on lui passe des messages de prévention, c'est déjà une attention qu'on éveille auprès du citoyen, que ce soit pour ses comportements futurs ou pour s'engager en tant qu'éventuellement sapeur-pompier volontaire, s'il le peut, ou dans d'autres formes de citoyenneté.
D'intervenir avant l'arrivée des pompiers, par exemple.
Et puis, bien sûr, ces gestes de premier secours permettent d'agir avant l'arrivée. Mais on forme des gens à des savoir-faire et puis on éveille l'attention pour aller vers des formes d'action citoyenne.
Alors Agnès parlait des problèmes de recrutement que rencontrent aujourd'hui les pompiers. Romain Pudal, vous êtes sociologue, vous avez été pompier volontaire. Vous le dites hein, dans votre livre, c'est un métier de plus en plus difficile car les pompiers sont en première ligne finalement face à toutes les tensions qui s'exacerbent et face à toutes les détresses sociales.
Oui, tout à fait, c'est une des choses qui me semblent les plus marquantes dans le métier depuis au moins une quinzaine d'années, facilement, qui est effectivement là les projecteurs sont braqués sur les feux de forêt, et c'est bien normal puisque les incendies c'est la base et même le cœur du métier. Mais c'est vrai qu'au niveau des sollicitations les plus quotidiennes et aussi les plus usantes du métier, il y a tout ce qui relève de détresse sociale, de misère, de différentes formes de déshérence, de choses comme ça, qui sont à la fois très sollicitante parce que généralement psychologiquement assez difficile à vivre. Et puis donc là il ne s'agit pas forcément d'être très technicien, c'est pas de la technique ou des gestes de secourisme, mais c'est des espèces un humanisme, une façon d'être, de se comporter, etc., qui est sollicité, donc c'est assez éprouvant pour les gens. Et souvent les jeunes sapeurs-pompiers qui s'engagent ne sont pas vraiment au courant que c'est ce qui va leur arriver, beaucoup de fois, dans le métier. Voilà, et donc c'est vrai que c'est aussi une des dimensions du métier que le grand public ne voit pas forcément, alors qu'elle est essentielle dans ce qu'on fait au quotidien, et puis dans les discussions aussi entre pompiers sur est-ce que ça relève ou pas du métier, comment est-ce qu'on peut être formé à ça, comment on peut se prémunir des difficultés que ça occasionne, etc., etc., quoi.
Alors vous dites que le grand public ne s'en rend pas forcément compte. C'est pas sûr, si j'en crois cette question de François. Bonsoir François. D'où nous appelez-vous ?
Je vous appelle justement, c'est là où c'est intéressant. Je vous appelle des Yvelines. Je suis à 50 km de Paris, oui. Et je suis tout à fait raccord avec ce que dit le sociologue. J'ai 55 ans. On est dans une région plutôt privilégiée. Il n'y a pas de problème. Il y a des hôpitaux. Et dès qu'il y a un problème, j'ai un enfant qui a un problème, à partir de 18h. Ce sont les pompiers qui viennent. Et moi, ça m'est arrivé moult fois pour mes enfants, y compris le décès d'un de mes enfants à la maison, un nourrisson, où c'est les pompiers qui viennent. Et à chaque fois, c'était trois volontaires et un engagé. Et à chaque fois, ils ont fait vraiment pour le mieux. Et effectivement, je pensais à l'actualité, le feu. Effectivement, les pompiers, ils sont là pour éteindre les feux. Et je sais que les pompiers, et je leur rends hommage, c'est que c'est eux qui ramassent toute la misère sociale. C'est ça, normalement, ça devrait pas être à eux de le faire. Ils ramassent les gens sur la route dans des conditions difficiles. Et au lieu d'avoir un médecin qui viendrait à la maison dans les Yvelines, je vous dis, c'est pas compliqué, hein, oui. Un médecin qui vient juste de s'installer, on lui donne une maison et il sera bien payé, et ben c'est les pompiers qui viennent, et à chaque fois, ils ont été super, et je comprends très bien leur malaise, c'est qu'en fait, ils sont confrontés, on leur laisse la misère, à savoir, j'ai accompagné aussi des pompiers, parce que je suis aussi caméraman, j'ai accompagné des pompiers qui se font caillasser parce que des gamins comprennent pas, parce qu'ils ont un uniforme, ils comprennent pas qu'ils viennent aider les gens. Et voilà, c'est juste leur rendre hommage. Et vous dire, moi je suis à 50 kilomètres de Paris, oui. quand j'ai parlé à la personne que j'ai eu au téléphone, j'ai dit j'habite à la campagne. Mais en fait, j'habite pas vraiment à la campagne, j'habite à 50 kilomètres de Paris. Et ils font tout.
Ils font tout, on a bien compris François, effectivement les pompiers sont en première ligne, c'est ce qu'on disait. François Pudal, vous écrivez même dans votre livre, je crois que le professionnalisme des pompiers, aujourd'hui, c'est un humanisme, dites-vous.
Oui, c'est une formule pour résumer une des choses qui m'a... D'ailleurs, une des choses qui m'a le plus plu, mais qui était... qui était la plus étonnante et dans le métier, parce qu'on voit beaucoup, effectivement, ces images d'héroïsme sur des feux, sur des sauvetages, sur des coupes de voitures, des choses comme ça, qui sont effectivement des interventions importantes, mais... Moi, j'ai été surtout aussi impressionné par les gars de la caserne, si je puis dire, par leur capacité à être comme ça, dans des formes d'empathie, d'écoute, alors même que des fois ils font, et c'est ça un peu le cœur de la discussion de l'ouvrage, alors qu'eux-mêmes peuvent être dans des situations professionnelles ou familiales difficiles, hein, et précaires. Ils trouvent la plupart du temps, alors c'est d'ailleurs une des questions qui se posent, hein, c'est combien de temps ça tient, quoi, à quel moment on est dans le burn-out, quoi, on n'en peut plus, etc. Mais ils trouvent quand même la plupart du temps des ressources pour être le plus disponible possible, le plus à l'écoute possible, et rendre le service qui est attendu, qui est espéré. Mais voilà, je voulais juste, moi aussi, par cette petite formule, résumer une des choses les plus attachantes du métier, mais aussi les plus éprouvantes au fil des années. Il se trouve que une question qui est mal posée souvent, je termine là-dessus, c'est le fait que ce sont souvent des gens qui sont en situation de précarité professionnelle ou de précarité dans leurs études, etc., qui sont quand même sollicités en tant que pompiers pour aller aider des gens encore plus en détresse ou encore plus précaires.
Voilà, des précaires qui s'occupent de plus précaires qu'eux. Eric Faure, vous êtes d'accord avec tout ce qui vient d'être dit? Il y a un malaise chez les pompiers, on le voit bien depuis plusieurs mois.
Je ne parlerai pas de malaise. Tout d'abord, on parle de métier. Bon, il faut préciser à vos auditeurs que le métier, en tant qu'activité professionnelle rémunérée, la profession, concerne 50 000 sapeurs-pompiers, 40 000 sont professionnels, un peu plus de 10 000 sont militaires, à Paris et Marseille exactement.
Mais il y a de moins en moins de volontaires.
Et il y a 195 000 sapeurs-pompiers volontaires en France. Il y a effectivement de moins en moins de volontaires, mais on pourra revenir sur ce chiffre qui baisse. Deuxième élément important, la France a sans doute en Europe le modèle sapeur-pompier qui a une variété de missions la plus importante. Puisque historiquement c'était l'incendie, c'est devenu essentiellement aujourd'hui du secours d'urgence aux personnes, et puis également des tas de ce qu'on appelle pudiquement des opérations diverses pour porter soutien à la population. Un élément essentiel qui a été évoqué par Romain Pudal, on ne doit pas vendre à nos jeunes recrues quelque chose qui n'est pas la réalité. Donc nous travaillons aujourd'hui pour renforcer en matière dans le domaine de la formation la réalité de nos missions. on les forme à lutter contre les incendies, c'est très bien, mais il faut aussi leur expliquer qu'ils peuvent se retrouver demain dans une ambulance à tenir la main d'une personne âgée parce qu'elle a besoin de soutien. Donc c'est essentiel. Enfin, pour conclure sur ce volet-là, pourra-t-on faire machine arrière ? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce qu'au fil des années, ça a pris quand même quelques décennies, nous sommes arrivés à cette situation. Ces missions qu'on appelle pudiquement urgence sociale représentent aujourd'hui, sans qu'on puisse les catégoriser avec précision, près de 20% de l'activité des services d'incendie et de secours. Donc elles sont ancrées dans l'activité quotidienne. Au-delà de tout ça, dans de nombreux territoires, ils peuvent être aussi bien urbains que ruraux, ce sont des missions que plus personne ne fait. Donc les services d'incendie et de secours se sont adaptés pour les faire. Si on ne les fait plus, c'est d'autres services publics ou privés qui devront les faire. Donc je pense qu'il faut s'adapter pour les faire mieux ou différemment. Un exemple très concret, pour une mission de sociale ou d'assistance, doit-on partir en intervention avec notre gyrophare et notre sirène hurlante au risque de provoquer un accident? Donc nous sommes en train de travailler pour adapter nos conditions d'intervention à ces missions spécifiques.
Alors on va revenir sur le travail des pompiers et son évolution et leurs problèmes, mais puisque l'actualité ce soir ce sont les feux de forêt, je reviens vers vous Thomas Kurt à Aix-en-Provence. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui les pompiers font ce qu'il faut dans la lutte contre les feux de forêt et qu'ils sont suffisamment armés pour y faire face?
À dire que les pompiers font ce qu'il faut, ça je crois que tout le monde le dit. Là, vous avez vu l'hommage de vos auditeurs, il est assez unanime. On sait qu'ils sont très efficaces, ils sont reconnus comme tels d'ailleurs, y compris par leurs homologues européens. Donc en matière d'incendie de forêt, ils sont généralement très efficaces. Après, je me prononcerai pas sur les moyens. Ce qui est certain, c'est que une des difficultés, c'est que nos paysages évoluent, le changement climatique est là, et du coup, ils se présentent des difficultés, certains types d'incendies très difficiles, très intenses, très rapides, comme c'est le cas en ce moment, qui eux vont poser probablement de plus en plus de problèmes aux sapeurs-pompiers dans le futur. Mais je ne peux pas me prononcer sur la qualité de leurs moyens.
Quand on dit qu'ils font ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la technique, parce qu'il y a des pays où on laisse les feux mourir d'eux-mêmes, hein, c'est pas du tout le cas en France. En France, on est plutôt sur l'intervention massive, l'attaque massive du feu dès le départ.
Oui, ben le colonel Fort pourra le compléter, le préciser, mais la stratégie française, voilà, c'est de aucun feu ne se déplace librement dans le paysage. Tous les feux sont attaqués le plus tôt possible, ça c'est le cœur de la doctrine, de manière à éviter qu'ils deviennent grands, parce que plus un feu devient grand, plus il va être complexe à arrêter. Voilà.
Et puis une précision, vous parliez de réchauffement climatique. Les conséquences du réchauffement climatique, bon, outre les sécheresses peut-être, qui sont de plus en plus fortes, mais c'est surtout l'extension des zones à risque à laquelle il faut s'attendre dans les années à venir. Il y aura des feux de forêt beaucoup plus haut dans le pays.
Oui, tout à fait. Le réchauffement climatique, il est vraiment là. C'est mesurable sur les données, depuis notamment les données Météo France quotidiennes depuis 1959. On voit que la zone à risque incendie de forêt, propice au niveau météo aux incendies de forêt, s'étend spatialement. Hein. Ça augmente par exemple dans les Alpes du Sud, chez nous. Et puis la saison à risque s'allonge. On a, comme cette année, par exemple, des incendies assez sévère dès le mois de juin.
Cyril à Poitiers nous demande par mail si l'augmentation des surfaces brûlées, il n'y a pas plus de feu, avez-vous dit tout à l'heure, mais les surfaces augmentent. Est-ce que ce ne serait pas lié au manque d'agriculteurs ?
Ah, c'est certain que il y a le changement climatique, ça on en parle parce que c'est un phénomène qui est maintenant incontournable. La deuxième grande cause structurelle hein, qui fait que les incendies peuvent s'étendre en France, ce sont tous les changements de nos paysages. On a des paysages qui deviennent plus à risque. La forêt continue de s'étendre en France, hein, il faut le rappeler. Hein, elle s'étend souvent spontanément à partir des peuplements existants. Beaucoup de zones de l'arrière-pays, anciennement pâturées, agricoles, ont tendance à s'embroussailler. Et puis surtout, il y a une urbanisation qui est de plus en plus prégnante, hein, qui s'opère souvent à proximité des forêts, des zones à risque. Et ça augmente réellement le risque.
France Inter, le téléphone sonne. vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le mot-clé Telson.
Retour au standard avec Alain. Bonsoir Alain.
Bonsoir Yves.
Nous vous écoutons.
Merci. En ce qui me concerne, je voulais connaître l'avis de vos intervenants, de vos invités, à propos du mal, la reconnaissance, le problème, les relations entre les pompiers professionnels et les pompiers volontaires qui sont bénévoles. On ressent un certain mépris, j'écris mépris entre guillemets quand même, des professionnels par rapport aux bénévoles, aux volontaires. On prend l'exemple de petites compagnies de village. Vous prenez un village de 700 habitants, de 1000 habitants, 1500. Ils sont composés de volontaires, mais parfois on a des gens qui appartiennent à un centre de secours, le centre de secours est cantonal souvent, et ces gens-là, ils sont dédommagés, j'ose pas dire payés, dédommagés par rapport aux autres. Et j'ai l'exemple de pompiers de ce cas qui, plutôt que d'aller sur le sinistre directement, passent d'abord au centre de secours à 7 km et qui reviennent avec le centre de secours pour pointer, être payés, tandis que les vrais bénévoles, ils vont quitter, l'agriculteur va quitter sa ferme, l'habitant va quitter sa maison pour aller directement sur le sinistre.
Alors, Eric Faure qui est avec nous est en train de vous répondre que c'est tout à fait normal.
Écoutez, nous sommes au cœur d'une organisation, donc effectivement, ce qui est évoqué par notre auditeur est tout à fait normal. C'est-à-dire que c'est pas une question de pointage, c'est seulement une question de quitter son domicile avec les habits de Monsieur Tout-le-Monde, passer à la caserne pour prendre sa tenue d'intervention, monter dans le véhicule et venir sur les lieux avec un véhicule avec les moyens d'intervention. Il arrive, je le sais, que dans certains petits villages, pour des raisons pratiques, la personne a la tenue avec elle et puis rejoint l'équipage qui est arrivé sur le lieu avec l'engin. Mais au-delà de ce qui a été évoqué, je crois que la première partie du constat fait est effectivement quelque chose sur lequel nous travaillons actuellement. Notre modèle est unique. Notre modèle de secours est unique puisqu'il mélange des personnes dont c'est le métier, la profession, et d'autres qui exercent une activité citoyenne bénévole dans l'esprit.
Alors c'est ce que nous dit Noémie sur Twitter, que la France est le seul pays au monde où existent des pompiers volontaires, mais pourquoi ? Pourquoi cette particularité ?
Non, la France n'est pas le seul pays. Il y en a 200 000 en France, 195 000, il y en a 1 million en Allemagne. Donc non, beaucoup de pays dans ceux qui nous ont tourne en Europe, notamment, ont des pompiers volontaires. La particularité, c'est que c'est un des seuls pays où le pompier volontaire fait la même activité que le pompier professionnel. Et surtout, cette activité, je l'ai dit il y a un instant, est extrêmement variée. Donc, c'est effectivement cette spécificité française, même activité que les professionnels et activité extrêmement diversifiée. Il ne faut pas se le cacher. La France est vaste. 40 000 pompiers professionnels, 12 000 militaires et puis 195 000 volontaires, forcément dans des territoires, et ce n'est pas un système global, ce sont des relations d'hommes et de femmes entre eux. Je constate seulement que ces deux dernières années, ces deux, trois dernières années, avec la contrainte économique, certains ont voulu jouer avec des pratiques qui sont pas très adaptées. C'est-à-dire qu'on a effectivement supprimé des postes de sapeurs-pompiers professionnels, on n'a pas remplacé des départs à la retraite, et puis on a mis en place des dispositifs de renforcement des secours avec des volontaires qu'on faisait venir en garde postés dans la caserne, ni plus ni moins à la place des pompiers professionnels. Donc ces derniers, leurs syndicats ont protesté, ils ont raison. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de déshabiller Paul pour habiller Jacques, il s'agit seulement de garder un équilibre et ne pas agiter un chiffon rouge en faisant bouger les lignes dans des équilibres historiquement construits dans les départements.
Et rapidement, pourquoi y a-t-il moins de volontaires alors ?
195 000 volontaires, nous avons atteint un plancher il y a quelques années. Le chiffre ne diminue pas, mais n'augmente pas. Là également, plusieurs raisons à cela. C'est pas facile, parce que Romain Pudal le disait, ça demande de la formation, de la technicité. Donc c'est pas facile de concilier trois vies, une vie professionnelle parce que les gens ont un métier, une vie de famille, une vie personnelle, et puis enfin cette vie de sapeur-pompier volontaire. Ensuite, là également, la diminution des effectifs de volontaires face à une sollicitation qui augmentait fait que la charge d'activité de chaque volontaire augmentait. Donc c'est un véritable problématique. Moi, je réclame fortement un renforcement des effectifs de volontaires pour qu'on revienne vers un sapeur-pompier volontaire toujours aussi bien formé, mais qui ne soit pas sollicité en permanence.
Alors, sur ces problèmes d'organisation, peut-être, si problème il y a, ce témoignage, cette question de Vincent. Bonsoir, Vincent.
Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Oui, notre fils est dans la sécurité civile à Neuchâtel-Rotrou. Il a, comme tous les ans, des surveillances hein, qu'ils font régulièrement, donc en Corse et aussi dans le sud de la France. Là, ça brûle en Corse, ça brûle dans le sud de la France, et en fait, il est en congé, on l'a mis en congé. Alors, la sécurité civile, c'est des gens très très bien formés à tout niveau, hein, au niveau des feux, au niveau des tremblements de terre, des choses comme ça. Et en fait, ils sont vraiment sous... en fait, ils remplissent pas le rôle. Et je sais qu'il y a des tensions avec les pompiers professionnels, des choses comme ça. Donc, c'est très difficile à bouger d'un endroit à l'autre. Enfin, ça paraît très compliqué, alors que c'est des gens hyper formés, très compétents et tout ça. Alors voilà, je voudrais votre avis là-dessus. Pourquoi c'est un vrai métier, c'est vraiment une unité militaire spécifique. Et en fait, ils sont, on ne les utilise pas comme il faudrait. Quoi. Donc moi, je suis un peu atterré. Quoi.
Éric Faure.
Bon, c'est un micro-phénomène au milieu de tout ça. Les militaires de la sécurité civile, ils sont dans les 12 000 sapeurs-pompiers militaires que je citais. Ils sont 1500 en France. C'est une unité spécifique. Ils ne sont ni à Paris ni à Marseille. Et ils sont là pour apporter soit d'une spécificité technique dans certains domaines qui ont été évoqués par notre auditeur, soit pour apporter des renforts en cas d'événements exceptionnels. Moi, ce que je sais, c'est que actuellement les militaires de la sécurité civile sont très engagés dans le sud de la France, en Corse. Et donc, alors après, pourquoi le fiston est en vacances, ça je n'en sais rien, mais je sais qu'ils sont très sollicités, très engagés, et on les voit assez souvent. Quand il y a des catastrophes à l'étranger, ils font partie des premiers à partir pour apporter l'aide internationale de la France, notamment dans le domaine des tremblements de terre.
Question pratique de Henri, par mail. Comment fait-on pour devenir pompier volontaire ? Réponse rapide, si vous pouvez, Éric Faure.
On se rend à la caserne de sapeur-pompier la plus proche de son domicile. On se renseigne sur ce que sera l'activité, la formation. Et puis, si ça colle avec sa vie personnelle, avec sa vie professionnelle, on y va.
Alors, ce soir, le Premier ministre est dans le Var. Mardi, le ministre de l'Intérieur avait reçu les représentants des pompiers qui dénoncent un manque d'effectifs et de moyens, on l'a dit. Dans la lutte contre les feux de forêt, certains dénoncent aujourd'hui, Éric Faure, un manque de canadaires. La France a d'ailleurs fait appel à ses voisins. Et pourtant, j'ai vu que la France était le seul pays qui disposait d'une flotte à peu près complète en la matière. 23 bombardiers d'eau, dont 12 canadaires. C'est quoi alors? Un problème de vétusté, un problème de maintenance?
Alors, oui, effectivement, nous avons une flotte conséquente. Bon. Déjà, ces avions ont une particularité, c'est qu'ils sont sollicités dans des conditions d'utilisation extrêmes. Il y a de la fumée, il fait très chaud, ils font de multiples rotations. Les trackers, par exemple, qui doivent se poser pour être rechargés en...
Les trackers, c'est les plus gros.
Ce sont les Dash, mais bon, peu importe. Mmh. Les Canadair, ils écopent en mer, les autres doivent se reposer sur l'aérodrome ou l'aéroport pour se recharger en eau et en produits retardants. Bah, ça veut dire que ce sont des avions qui atterrissent 10 ou 15 fois en une après-midi, là où un avion basique ferait un ou deux atterrissages. Donc le matériel est beaucoup plus sollicité, ça nécessite des opérations de maintenance très importantes, très régulières et donc très fréquentes. Et quand ils sont en maintenance, ils sont indisponibles. Il faut dire qu'avec la sollicitation qui est celle des bombardiers d'eau français depuis le début de la saison, forcément, ces opérations de maintenance sont énormes, fréquentes et font que le potentiel n'est jamais à 100%. Un exemple pour étayer cette sollicitation. Depuis le début de la saison, l'ensemble de ces 23 avions ont fait 4500 largages d'eau. L'an dernier, ils en ont fait 2000.
Un témoignage, celui de Jean-Paul. Jean-Paul qui est berger, c'est ça ? Jean-Paul ?
Allô ?
Oui, vous êtes... Nous vous écoutons.
Oui, bonjour.
Vous êtes un berger et vous êtes dans le sud-est.
Je suis dans le sud de Montpellier.
Oui.
Je suis sur le massif de la Gardole, donc c'est un massif qui est hautement protégé, hautement sensible. Tous les étés, il y a pas mal de personnes qui viennent comme ça, qui regardent un peu de partout. Et plus ou moins certains intervenants professionnels, notamment les pompiers qui sont casernés pas très loin, quoi. Et moi, je voudrais savoir poser une question juste sur les personnes qui peuvent décider de quelque chose sur le milieu pastoralisme. Tout à l'heure, vous avez posé des questions que le milieu, on va dire, de berger, d'agriculteur était manquant, quoi. Donc moi, je souhaiterais savoir s'il y a moyen en France de relancer le pastoralisme pour éviter les feux de forêt. Voilà, c'est tout. Et parce que quand on sait que le feu part de la strate basse, c'est une loi napoléonienne qui n'est plus appliquée.
Oui.
Voilà, c'était pour éradiquer les feux de misère qu'il y avait avant, quoi.
Relancer.
À part la famine, et voilà, quoi. Donc relancer le pastoralisme, pour moi, ça serait éventuellement une bonne solution.
Merci Jean-Paul, on entend le vent dans votre téléphone. Thomas Kurt, à Aix-en-Provence. Relancer le pastoralisme, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, l'agriculture, la diminution des emprises agricoles participe évidemment aux feux de forêt.
Oui, la tendance est plutôt à une diminution du pastoralisme depuis l'après-guerre, hein, quasiment. Et par contre, on sait aussi, dans le même temps, que le pastoralisme, c'est-à-dire le fait de faire pâturer des moutons, par exemple, du bétail, pour entretenir la végétation, la garder bien rase, ça fait partie des solutions très efficaces pour, alors pas forcément arrêter les incendies, mais au moins pour limiter leur propagation et diminuer leur intensité. Donc, avec, par exemple, aussi les coupures agricole, des zones assez larges, suffisamment larges avec des oliviers ou des zones cultivées, ça permet de ralentir le feu et ça permet aussi de donner des opportunités aux sapeurs-pompiers pour éteindre le feu. Donc tout ce qui va dans ce sens de l'entretien du paysage et de diminuer l'embroussaillement, c'est plutôt quelque chose à souhaiter.
Et combien de temps
et à développer.
Combien de temps pour que la nature reprenne sa place, que la vie reprenne sur une zone de feu, Thomas Kurt?
Dans le milieu méditerranéen, il faut rappeler que la majeure partie des espèces et de la végétation sont quand même adaptées au feu, sinon il n'y en aurait plus. Donc on a les végétations de garrigue, de maquis, on a le pin d'Alep, les chênes, etc. Donc globalement, c'est une végétation adaptée. Simplement, quand on a ce qui peut être le cas, ça a été le cas dans le Massif des Morts, dans le Var, dans les années 2003, c'est le cas aussi ailleurs. Quand on a des feux répétés avec des intervalles assez courts entre incendies, par exemple 10-15 ans, et qu'on a 2-3 incendies, 4 incendies en 50 ans, par exemple, ce qui arrive à certains endroits, même la végétation méditerranéenne, qui est normalement bien adaptée, a du mal à récupérer. Donc dans ces cas-là, on va vers des végétations plus rases, de l'érosion, etc. Donc la végétation méditerranéenne est adaptée, mais il y a des limites.
Éric Faure.
Oui, ce matin, un de mes collègues du sud de la France me disait que, en parlant d'un des feux qui s'est développé dans le Var, que c'est un feu qui, dont on avait la connaissance, il s'est produit quasiment à l'identique il y a une trentaine d'années. Je voulais compléter par rapport à l'emprise agricole. L'emprise agricole suppose des étendues dans lesquelles soit on fait du pastoralisme, soit on fait de la culture. Aujourd'hui, les feux qui se développent et qui posent problème, ce sont ceux qui sont dans des zones où le tissu urbain est important, il est mité dans le territoire, où il y a des infrastructures de circulation routière, ferroviaire, et donc ce sont ces situations-là qui posent de gros problèmes, une géographie avec de l'habitat, avec de l'homme, avec des activités où on saute facilement d'une parcelle boisée à l'autre entre des maisons et où aujourd'hui notre société n'admet plus aucun temps de rupture. Une route, fût-elle départementale, doit être ouverte parce que il faut aller au travail, il faut vivre. Les camions qui livrent les supermarchés doivent circuler. Donc c'est ce lien permanent entre une évolution sociétale qui ne nécessite plus l'immobilisme qu'on pouvait connaître dans le passé.
Alors une toute dernière question à propos d'évolution sociétale. C'est vous, Cédric, qui nous l'a posé. Vous avez une petite minute.
Oui, Allez, très bien, on va faire court alors. Bonsoir à tous, je tiens juste à saluer l'action des pompiers, qu'ils soient volontaires ou professionnels, d'accord. Je suis éducateur spécialisé, entouré de pompiers voilà, autour de moi, et je les entends dans leurs difficultés, en fait, en particulier lorsqu'ils interviennent pour mettre un pansement sur une jambe de bois, c'est-à-dire sur des situations très complexes, et souvent rejetées dans des quartiers difficiles, voilà, parce qu'ils sont méconnus. Et je m'étonne, en fait, de l'absence de mixité sociale, en fait, chez les pompiers. Mmh. Et lorsqu'on en discute, il y a une espèce de, enfin, ils sont très rapidement fermés à cette idée-là. Alors que je vois deux initiatives possibles et assez simples. C'est éventuellement des actions de sensibilisation, donc des interventions des pompiers en plus dans leur tenue, au niveau de l'éducation nationale, et éventuellement en lien avec les services de milieu ouvert. Voilà, sur ces territoires qui sont délaissés, plus de police de proximité, les pompiers qui interviennent, souvent aidés par les forces de l'ordre, effectivement, il faut faire quelque chose. On a des énergies à cet endroit-là.
Merci, voilà. Merci Cédric. Le dernier mot, ce sera pour vous, Romain Pudal, puisque vous l'évoquez dans votre livre. Très, très rapidement, hein, les pompiers, ce sont des hommes blancs avec très peu de diplômes, finalement.
Oui, enfin, on peut effectivement résumer comme ça, mais je souscris tout à fait à cette remarque qui a été faite. Et une des questions qui se posent, notamment par rapport au recrutement, c'est évidemment la mixité, pas seulement sociale, mais disons issue des minorités visibles ou autres, c'est-à-dire, et aussi les questions de féminisation. C'est évident que le corps des pompiers, à mon avis, gagnerait à s'ouvrir à d'autres populations que celles qui est traditionnellement recrutées, ne serait-ce que pour faciliter un certain nombre de relations, pour connaître son environnement de travail, voilà. Et bon, c'est sûr que là, il y a des axes d'amélioration, comme on dit des fois chez les pompiers, qui sont souhaitables.
Et je rappelle votre livre « Retour de flamme, les pompiers sont-ils des héros fatigués ?» Paris, aux éditions La Découverte. Merci à tous, Éric Faure, président de la Fédération des sapeurs-pompiers de France, et Thomas Kurt, chercheur à l'IRSTEA en duplex d'Aix-en-Provence. Merci beaucoup, il est 20h.